Les chroniques financières, troisième numéro sur CFM Rhodes, une émission proposée, présentée par Steve Bonneau. Bonjour Steve.
Bonjour David, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui.
Ah bah oui, on a une belle semaine. Donc ça
c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En plus, c'est ensoleillé.
Alors, je ne sais pas si ça aide la météo dans votre domaine, l'investissement, les produits financiers.
Bah, c'est toujours intéressant d'avoir le sourire, mais enfin, je ne me suis pas rendu compte d'un effet climat, on va dire.
D'accord. Alors, au programme cette semaine, comme dit la semaine dernière avec toi, Steve, le sujet, c'est le projet d'investissement.
Exactement. Donc, si vous vous rappelez bien, la semaine précédente, on avait commencé à revoir les quatre piliers de la méthodologie. Donc, on avait parlé du profil d'investisseur qui nous permet, donc je résume un petit peu, de définir les caractéristiques principales de la personnalité de l'investisseur. D'une part, donc il y a une partie psychologique. Mmh. Il y a une partie, en fait, aussi de patrimoine qui est importante, de bien déterminer la structure du patrimoine de l'investisseur parce que ça a une influence sur son appétence ou son aversion à prendre du risque.
Mmh.
Et donc là, on va voir la partie projet d'investissement. Alors, c'est une partie qui est fondamentale pour le conseiller. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est la partie qui va permettre d'établir ou d'expliquer les buts ultimes de l'investisseur. En fait, ça permet de répondre à une question toute simple. Pourquoi on investit ? Ça paraît anodin, mais dans mon expérience, assez peu de clients réfléchissent au terme, enfin, au but ultime de l'investissement.
C'est-à-dire, quand ils viennent vous voir, je rappelle que vous travaillez dans une banque d'investissement, donc des gens viennent vous voir avec de l'argent.
Voilà.
A priori, bon, s'ils viennent vous voir, c'est pas juste pour vous dire, vous me mettez ça dans un coffre, je reviens dans 15 ans.
Non, mais c'est pas loin.
Ah bon?
C'est-à-dire qu'ils viennent souvent avec l'idée qu'il faut, je veux dire, c'est un peu un lieu commun, mais ça se comprend, de dire, voilà, je vous donne, enfin, je vous prête.
Non, on vous donne pas.
Ouais. On va dire, je vous mets à disposition. Oui. Une certaine partie de mon épargne, ce que je voudrais, c'est que vous optimisiez ou vous maximisiez en fait le rendement dessus.
Mmh.
Ok, bon, très bien. Sauf que, en réalité, le conseiller a besoin d'en savoir un petit peu plus. Je m'explique. Il faut qu'on puisse arriver à déterminer un taux de rendement qui soit en fait satisfaisant et atteignable pour tout le monde.
Alors, taux de rendement, c'est ce que ça va rapporter soit chaque année, soit au terme de,
voilà,
d'un terme qu'on a décidé.
Exactement. Et ce taux de rendement, il doit être en fait en cohérence avec le profil d'investisseur qu'on a vu auparavant.
Oui.
Ça, c'est vraiment très important. Parce qu'il ne faut pas oublier que le conseiller a, comme son nom l'indique, un conseil à apporter. Et ce conseil, il ne peut pas être basé sur quelque chose qui n'ait pas été défini auparavant. Voilà.
Bien sûr.
Et donc, dans le projet d'investissement, ce qu'on va essayer d'expliquer ou de clarifier avec l'investisseur, c'est pourquoi il investit. Est-ce qu'il a une idée derrière la tête ? Par exemple, ça peut être financer les études des enfants dans 10-15 ans. Mmh. Ça peut être préparer une retraite.
Oui.
Ça peut être acheter un bien à terme.
Mmh.
Et l'idée va être de dire, OK, une fois qu'on arrive à définir ou à caractériser ce projet, il y a deux éléments importants qu'on va pouvoir exploiter dans la relation. Premièrement, on va pouvoir quantifier le projet, c'est-à-dire dire voilà, de combien on parle à terme. Le projet, en fait, la valorisation, est-ce qu'on parle de 200 000 euros ou de 2 millions d'euros ?
D'accord, donc c'est-à-dire, pour être sûr d'avoir bien compris, ce projet, c'est de vous dire, bon là j'ai 200 000, dans 10 ans je voudrais 500 000 ?
Voilà, parce que je veux faire telle ou telle activité.
Et si s'il n'y a pas de projet concret derrière, la retraite c'est réglé, les enfants il n'y en a pas, c'est pas grave.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a toujours quand même un but. Parce que s'il y a rien de tout ça, autant dépenser l'argent tout de suite.
Bien dit.
C'est
ouais.
Simple.
Ouais, ouais, je veux dire. C'est sûr.
Voilà, si on n'a pas d'autres conseils à apporter que celui-là,
ouais.
Je ne vais pas, moi, prendre la mission au risque de générer de la frustration chez le client.
Mmh.
Je vais dire, écoutez, si votre retraite est assurée, que vous êtes satisfait du niveau de revenu que vous allez percevoir, si vous n'avez pas d'enfant, si vous avez déjà des biens immobiliers
tout
à ne plus
faut.
Savoir qu'en faire,
ouais.
Bah, allez au casino.
Et oui.
Dépenser l'argent.
Bien sûr.
Voilà. Donc, la quantification, ça va permettre, nous, d'avoir une sorte d'objectif numérique, en dire, voilà, on va devoir atteindre ce montant.
Mmh.
Et deuxième élément fondamental, dans combien de temps ?
Eh oui.
Voilà, donc ce sont vraiment les deux piliers sur lesquels, en fait, le conseil va reposer.
Bon, alors après, j'imagine que quand des gens ont une idée en tête, ce qui est déjà pas mal d'après ce que vous nous avez dit, des fois, quand il y a l'expression détaillée de ces objectifs, enfin, vous allez peut-être leur dire, mais attendez, mais moi, je suis pas magicien.
Ah ben voilà, justement, on y arrive. En fait, c'est souvent ça. Et là, c'est vraiment là où on touche au cœur du conseil. C'est-à-dire qu'avant même d'investir le premier euro, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qu'attend le client, donc quantification et horizon temporel, son profil d'investisseur. Pourquoi ? Parce que si le client vient avec, disons, allez, 100 000 euros, en disant, écoutez, dans 10 ans, je veux avoir 2 millions d'euros. Là, je vais lui dire, écoutez, ça risque d'être un petit peu délicat.
Mais c'est possible.
Potentiellement. Tout est possible. Mathématiquement, oui. On va réussir à calculer un taux de rendement.
Ça peut se tenter, oui.
Ça peut se tenter. Maintenant, il faut être un petit peu prudent.
Ouais. D'accord.
Donc ça, c'est une chose. Il faut regarder donc, le taux de rendement. Est-ce qu'il est bien en adéquation avec ce que le client peut supporter psychologiquement ?
On en a parlé la semaine dernière.
On en a parlé la semaine dernière. Et aussi financièrement. Parce qu'il va probablement lui falloir faire un effort d'épargne supplémentaire pour contribuer en fait, ou alimenter le portefeuille durant toute la période d'investissement. Et puis surtout, il va lui falloir supporter des fluctuations de marché qui risquent d'être importantes. Et là, je m'explique. En fait, plus le client a un projet ambitieux, plus il va falloir qu'on aille chercher du rendement. Et donc, ça veut dire qu'on doit allouer à des actifs beaucoup plus risqués.
Quand vous parlez de rendement, vous parlez dans mon vocabulaire à moi très simple. C'est quoi ? C'est les taux d'intérêt, ce que ça rapporte ? Non, c'est pas ça ?
Alors, si, tout est lié. En fait, le taux de rendement, on va dire, c'est combien est-ce que le portefeuille va rapporter.
Ok.
Combien le portefeuille doit rapporter pour passer d'un point A à un point B à l'horizon.
D'accord. Et ça, vous calculez pour chaque année ? Ou au bout de 10 ans. Parce que des fois, comme vous dites, la bourse, ça peut baisser, c'est arrivé. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, mais c'est arrivé sur une année. Donc, on peut perdre une année, mais sur 10 ans, avoir quand même des 20% de gains.
Voilà. Alors, ce qu'on fait, en fait, et c'est pour ça que c'est très, très important que le client réfléchisse bien à son projet d'investissement, parce que quand on définit l'horizon d'investissement, on va dire 10 ou 15 ans, par exemple, quelqu'un qui a 35 ans aujourd'hui, qui veut partir à la retraite à 65 ans, on sait qu'on a à peu près 30 ans.
Ouais.
Voilà.
Ça, c'est bien, vous dites la confort, non ?
Ah oui, oui, ah ben ça, c'est très bien.
Ah ouais, d'accord.
Ça, et alors là, je rebondis en vitesse, mais c'est vraiment la différence fondamentale entre une activité d'investissement et une activité de trading.
D'accord. Donc, moi, à mon âge, 50 ans, ma seule chance d'avoir une bonne retraite, c'est de me lancer à fond dans le trading.
Pas nécessairement. On peut faire les deux.
Ah bon ?
Mais il faut quand même. 15 ans, c'est déjà pas mal.
Ouais, c'est vrai que c'est.
15 ans, c'est déjà pas mal en termes d'horizon d'investissement.
D'accord.
Donc, il y a quand même des choses à faire.
Excusez-moi, j'insiste sur ces rendements. Parce que tout ça, donc, c'est des pourcentages. Enfin, ça, vous donnez un pourcentage. Et ça, ça doit dépendre aussi des périodes où on peut espérer des rendements supérieurs à d'autres. Là, on entre dans l'inflation, par exemple.
Alors, déjà, il y a une relation mathématique donc, entre la valeur qu'on veut atteindre à l'horizon d'investissement et ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, et c'est ce taux de rendement va connecter les deux.
D'accord.
Donc, première étape, on détermine ça. On regarde ensuite ce qu'il est possible de faire en fonction des conditions de marché actuellement. Ça va nous donner une sorte d'évaluation en fait, de l'écart ou disons du risque qu'on va devoir prendre quand on va structurer le portefeuille.
Là, actuellement, là, mi-2022 quasiment, ce que vous évoquez, le taux de rendement, il est un peu bien.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour quelqu'un qui a un profil relativement équilibré, hein, c'est-à-dire qui est capable d'assumer un certain niveau de fluctuation de marché et potentiellement de contribuer à son portefeuille mensuellement, on va dire, je pense qu'on peut atteindre entre 4 et 5% par an.
D'accord. Je rappelle le livret A, le truc le plus courant pour les Français. On dépose notre argent, c'est quoi, 0,75 ?
On est aux alentours de 1%.
1%, d'accord. Donc 4 fois plus.
Alors, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il faut voir aussi qu'en termes d'inflation, là aujourd'hui, on est bien au-dessus, d'un taux qui est le taux directeur de la Banque Centrale Européenne, donc à peu près à 2%. C'est un objectif. C'est jamais quelque chose de fixe. C'est un objectif. Et ça nous permet, nous, de nous caler aussi dessus. Parce que si on voit qu'on n'arrivera pas à faire plus de 2%, ce n'est pas très satisfaisant.
Bien sûr.
Donc, il faut aussi structurer le portefeuille. Mais plus important, il faut expliquer au client pourquoi on fait un portefeuille comme ça. Ou si jamais il y a une incohérence entre ce que le client attend et ce que nous, on peut faire, il y a beaucoup de dialogue à avoir. Et j'insistais, en fait, au début, dans les émissions précédentes, je parlais souvent du partenariat entre le client et son conseiller. C'est véritablement là que ça se joue. C'est-à-dire que le conseiller, oui, il a une valeur ajoutée, en ce sens qu'il va structurer le portefeuille et choisir les investissements. Mais le client a aussi ses devoirs à faire, si je puis dire, parce qu'il doit vraiment réfléchir à ce qu'il veut faire. Parce que sans cette information, c'est très difficile pour moi en tant que conseiller de lui fournir un vrai service. Il faut que je comprenne ce qu'il veut faire, il faut que je comprenne ses objectifs.
Ça ne va pas toujours être évident.
C'est pas évident du tout parce que ça sous-entend que le client doit vraiment avoir fait ce travail de réflexion. Et il y en a assez peu qui le font, pour des raisons X ou Y, parce que certainement les gens ont d'autres chats à fouetter, comme on dit. Mais quand on arrive vraiment à investir ou à dire, ben voilà, ce sont mes économies, il faut vraiment faire cet effort de réflexion.
Deux questions là, pour toujours autour du taux de rendement. Les 4-5% que vous m'évoquez comme une moyenne, la situation actuelle, ce qu'on peut espérer sans non plus prendre des risques inconsidérés, c'est hors impôts.
Alors, on va dire c'est hors frais de gestion. Après, non, les impôts vont venir dessus. Alors, justement, et là, c'est très intéressant de voir, et là, je peux faire une petite aparté par rapport à ce que j'ai vécu dans ma carrière précédente. Par exemple, quand je travaillais en banque privée, on ne prenait jamais en considération la partie fiscale. Ouais. Pourquoi ? Parce que ce soit à Monaco ou au Moyen-Orient,
c'était léger.
La fiscalité, ça reste relatif.
Ouais, bien sûr.
Et donc, on était beaucoup plus intéressés par la performance du portefeuille. Mm-hmm. Maintenant, en France, effectivement, donc, il y a l'aspect fiscal qui est un paramètre à gérer en plus. En revanche, il existe beaucoup de produits, l'assurance vie, les plans d'épargne retraite, qui sont des enveloppes fiscales. Donc en fait, si vous voulez, à l'intérieur de cette enveloppe fiscale, le portefeuille capitalise sans impact.
D'accord.
Là, vous êtes protégé fiscalement.
Ouais.
En assurance vie, quand vous commencez à racheter votre contrat, donc il y a une fiscalité qui est bonifiée.
C'est-à-dire plus on l'a gardé longtemps, non ?
Il faut le garder au moins 8 ans. Voilà. Par rapport à un compte titre classique, où là, vous êtes soumis à ce qu'on appelle la flat tax.
Ah oui.
Eh oui. C'est-à-dire que voilà, vous avez 30% grosso modo en fait maximum sur vos plus-values. Là non. Là la partie capitale n'est pas taxée et vous êtes taxé uniquement sur le produit en fait de vos placements.
Okay.
C'est-à-dire autant dire la partie on va dire intérêt, plus-value, peu importe. Voilà. C'est intéressant et c'est certainement une des raisons principales pour laquelle aussi l'assurance vie est
bien.
Un vecteur d'investissement qui est très très populaire en France. Parce que ça a été pensé aussi comme une sorte de bouclier fiscal pour les investissements.
J'ai encore deux questions, excusez-moi Steve.
Oui.
Non mais c'est très intéressant, c'est pour ça que j'ai des questions. Le taux de rendement, vous m'avez dit, là on peut espérer 4-5% sans prendre trop de risques. Quand il y a des clients qui viennent vous voir et qui ont le profil, alors on parle de la psychologie, de la structure professionnelle, personnelle, etc. qui va bien, il a envie aussi d'y aller. C'est quoi le taux de rendement vraiment, là vous dites, là j'ai quelqu'un
alors, qui... Je pense que plus on va prendre de risques, plus on va s'orienter, on va s'approcher du taux de rendement des actions. Ok, là, ça dépend, mais on va tourner, je dirais, entre 8 et 10%.
D'accord.
Voilà, là, c'est sur du long terme.
Ouais.
Là, c'est très important de bien comprendre ça, c'est-à-dire que, voilà, pour atteindre ce genre de rendement, il faut vraiment être décomplexé par rapport à ce qui va se passer sur les marchés, bien comprendre que, de toute façon, on n'a pas besoin de l'argent qui est mis en gestion.
Ouais.
C'est une épargne. Mmh. Si je peux contribuer au portefeuille tous les mois, je contribue. Je ne m'inquiète pas, en fait, que les marchés soient contre moi pour l'instant parce que je sais qu'en restant investi à terme, je vais capitaliser, je vais avoir des années qui vont me porter, etc. etc. Donc ça, c'est important. Mais encore une fois, tout le monde n'est pas psychologiquement prêt à supporter.
Moi, pas, par exemple. Moi, je ne pourrais pas. Je serais trop à me flipper tous les jours.
Et voilà, c'est ça.
Je pourrais pas. Autre question, les frais de gestion que vous avez évoqués, c'est les frais, peut-être le revenu du conseil, déjà. Il y a aussi les opérations. Par exemple, quand on achète des actions, on paye une commission.
Exactement.
C'est
voilà.
Ça
ouais. Voilà. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Moi, personnellement, je me bagarre souvent pour les minimiser.
Bah oui.
Alors, il y a deux choses importantes. Quand il y a la rémunération du conseil, et là, c'est vraiment très important parce que le conseiller doit être rémunéré à sa juste valeur parce qu'il y a des responsabilités réglementaires, puis il y a surtout une responsabilité vis-à-vis des clients. Mmh. Donc, il faut pouvoir que ce soit économiquement viable pour les deux parties, parce que sinon, ça ne fait pas sens.
Oui.
Et après, il y a les frais de gestion proprement dit, c'est-à-dire ce que vous allez payer, comme vous le disiez, David, quand on achète un titre, une action, il va falloir payer l'intermédiaire qui passe l'ordre ou qui exécute l'ordre, donc c'est un back-office, etc., etc. Alors, moi, si vous voulez, je fais toujours très attention à ça parce que à terme, ça peut être avoir vraiment un coût important sur la performance.
Bah oui, oui.
Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on construit un portefeuille, on fait en sorte aussi de le toucher le moins possible, de sorte que la structure du portefeuille soit stable, qu'on n'ait pas à le rebalancer systématiquement tous les trimestres, parce que chaque fois que vous touchez au portefeuille, vous devez acheter ou vendre des titres, et donc vous générez des coûts.
Ah oui, oui, à chaque fois qu'il y a un
donc, coup. Ce qu'on fait, en général, c'est qu'on essaie d'avoir une structure stable à 80-90%, et sur les 10% qui restent, c'est là où on va peut-être prendre plus de risques pour aller chercher la performance. Mais on essaie vraiment de minimiser, de contenir, en fait, contenir les ordres que l'on doit passer hein, pour justement essayer de minimiser le coût de gestion d'un portefeuille.
Et vous, votre revenu, enfin, c'est quoi ? C'est une commission ou c'est un fixe ? C'est un pourcentage ou...
C'est un pourcentage.
D'accord.
En fait, on prend un pourcentage de l'encours sous gestion.
C'est-à-dire du patrimoine ou du gain ?
Non, du patrimoine.
D'accord.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous confiez à votre conseiller 100 000 euros, par exemple. Donc, le conseiller va dire, voilà, ben moi, je vais chercher à faire X% de ces 100 000 euros. Mais en essayant de se caler aussi sur un rendement. C'est-à-dire que, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, quelqu'un qui a un profil équilibré...
Je vous promets 5, mais en fait, je vais gagner 6.
Alors, on promet jamais.
Non,
oula.
Je vous annonce. Pardon, vous arrêtez. On va essayer d'arriver à 5, mais vous, votre boulot au quotidien, ça sera d'arriver à 6 pour garder le...
Exactement.
D'accord.
Voilà. Okay. 4 ou 5, c'est net pour
d'accord.
le client.
D'accord. Okay.
Avant impôt, bien sûr.
Oui.
Parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut forcément maîtriser.
Très bien. Excusez-moi, Steve. J'espère que je ne vous ai pas fait perdre le fil.
Non, pas du
bon.
Tout. Très bien. Mais en fait, c'est vraiment très intéressant parce que tout ça forme la structure de la relation entre le client et son conseiller. Vraiment, j'insiste sur cette notion de partenariat.
Et alors du coup, parce que partenariat, ça peut aller loin, un partenariat. Bon, un mariage, c'est quand même pas un partenariat, ou si on présente ça comme ça, on est mal barré. Mais est-ce qu'il peut se créer des relations d'amitié ou faut éviter on vous invite à l'apéro, ouais, mais
alors,
non, mais...
Oui, alors ça, c'est une excellente question. Effectivement, parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, donc il peut se créer des relations d'amitié entre... conseiller et client, mais il faut quand même avoir des garde-fous en place parce que un client c'est pas un ami.
Ben oui.
Étant donné en fait que le conseiller ne maîtrise pas le rendement qu'il va obtenir pour son client, parce qu'une fois que vous êtes investi, vous n'avez plus aucun contrôle sur ce qui va se passer dans le marché, et donc là vous subissez quelque part. Donc vous structurez un portefeuille parce que vous pensez que le portefeuille va pouvoir délivrer ces 4 ou 5%. En revanche, vous n'avez aucune certitude. Et une fois que vous êtes investi, vous êtes investi. Il n'y a plus rien que vous puissiez faire pour essayer d'orienter le marché.
Et non.
Et donc, il faut être un peu prudent de ce point de vue-là. Parce que souvent, ce que j'ai vu, c'est que les clients ont une certaine vision du banquier ou du conseiller qui est la personne qui va lire la boule de cristal. Mais non, c'est pas ça. On ne peut pas faire ça. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce qu'une des vraies valeurs ajoutées du conseiller, c'est pas tant de dire, voilà, le marché va faire 4, 5, 6, 7%. En réalité, je n'en sais rien. Mais je vais structurer votre portefeuille pour qu'il soit résilient le plus possible.
Pour passer les diverses possibilités ou situations
Exactement.
Qui vont se présenter au fur et à mesure du temps.
Toutes les situations qu'on est bien incapable d'anticiper quand on investit, il faut que le portefeuille soit en mesure d'accuser le coup ou de tenir en fait par rapport à ça. Et comment on fait ? En fait, on diversifie. Le plus possible.
Donc, on prend des choses qui se porteront toujours bien en cas de crise parce que c'est des valeurs refuges, entre guillemets, comme on dit. Donc éventuellement,
voilà.
Je pense à de l'or ou des grandes sociétés françaises qui bougeront jamais ou internationales.
Voilà, exactement. On essaie d'avoir donc un fonds de portefeuille qui est vraiment solide parce que ce sont des sociétés qui ont un track record, qui n'ont pas été créées hier.
Ouais.
On va agrémenter avec, par exemple, des emprunts. Ça peut être des emprunts d'État, ça peut être des emprunts de société, là, qui ne sont pas des actions. Donc, la petite différence, c'est une action, en fait, vous participez aux bénéfices de la société. Hein. Un emprunt, c'est un crédit. Donc, la société vous paye tous les mois, en fait, X%, en fait, qui est le coupon.
Et ça s'appelle les obligations, non ?
Ça s'appelle des obligations.
D'accord. Ok,
voilà.
Très bien.
Donc, vous avez les emprunts d'État, donc, par exemple, en France, les OAT, les obligations assimilables du Trésor. Et vous avez le pendant sur les sociétés, donc, qui sont des emprunts de société, qu'on appelle... corporate dans le jargon, et sont des emprunts privés.
Et quasiment toutes les sociétés, notamment les plus grandes, font des emprunts, même Exactement. Quand elles se portent très bien.
Voilà. Alors, en fait, c'est un moyen de les financer. Hein. Ouais. On peut aller soit à la banque pour chercher un prêt, hein, soit on va sur le marché pour se financer en levant des emprunts.
Ok. Alors, j'espère que vous n'avez pas perdu complètement le fil, Steve.
Parce non, que, non, bon, non, non, mais
bon,
non.
C'est bon, alors on continue.
Voilà. Donc, en fait, je voulais aussi insister un petit peu sur la notion de risque. Je sais qu'on en avait déjà parlé un petit peu la semaine dernière.
Oui.
Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que lorsque le marché va contre vous, hein, bien souvent, les gens ont tendance à penser que...
Je vends.
Oui, ou que les boîtes vont faire faillite.
Aussi.
Et donc, je dis, oulala, qu'est-ce qui va se passer dans mon portefeuille ? Le marché dévisse, 3%, je vais tout perdre. Non.
Après, ça arrive quand même que même des sociétés en bourse fassent faillite. Ça arrive
oui,
pas souvent, alors, mais ça arrive.
Ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver, hein, de toute façon. Mais alors, il faut savoir que lorsqu'on structure un portefeuille, il est assez rare qu'on achète juste une seule action. En général, on démarre par des fonds d'investissement qui eux-mêmes, en fait, sont déjà largement diversifiés sur bien des valeurs.
D'accord.
Donc, que le marché aille contre vous, c'est pas que votre portefeuille va faire faillite ou que vous avez investi dans une compagnie qui va faire faillite. Vous êtes relativement bien protégé de ce point de vue-là.
Tiens, de mémoire, mais alors ça va même remonter avant nous, peut-être, Steve. La dernière situation, mais vraiment, où, si, elle craque de 29, où là, on peut dire que c'était... Oh, non, même pas, il y a eu des affaires à faire.
Tout ah oui, il y avait tout, bah, y a pas de eu. De toute façon, si on veut regarder vraiment là où il y a eu un vrai crack, il y a eu un vrai problème, on n'a pas besoin de remonter jusqu'en 29, on va en 2008.
Ouais.
Et il y a une énorme banque d'affaires américaine qui s'appelle Lehman Brothers qui a fait faillite, qui a généré énormément de problèmes pour tout le monde.
Ouais, à l'époque, ça, les marchés ils étaient tombés de combien? 30, 40, 50?
Ah, je ne me souviens plus exactement, mais ça avait vraiment bien dévissé parce que là, c'est un choc systémique énorme.
Ouais.
Là, quand vous avez une banque de cette importance qui fait défaut, c'est toutes les banques qui sont impactées.
Ah bah on avait vu ça.
Bah oui.
Ouais, vu ça. On s'en souvient. Enfin, moi je m'en souviens très bien. Ok. Donc le risque, oui, vous nous disiez.
Voilà, je disais en fait le risque en fait c'est une perception, c'est assez subjectif, mais ce qu'il faut bien comprendre, le message que je veux faire passer, c'est lorsque les marchés décrochent, vous ne ferez pas faillite. Voilà. C'est une volatilité, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Les marchés baissent un jour, augmentent le lendemain. C'est comme ça, c'est la source du revenu en fait du portefeuille. Parce que vous acceptez ce risque-là, vous ferez mieux qu'un dépôt à terme.
Dépôt à terme, c'est quoi?
Ou un compte à terme, ou un livret A.
D'accord,
on va dire.
Ah oui, oui.
Ce sont c'est simplement que vous prêtez votre argent à la banque pendant une semaine, un mois, trois mois, six mois, jusqu'à 12 mois.
Ok, donc à court terme, liquide.
Voilà.
Ok.
Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et alors, pourquoi c'est important? Je vais finir là-dessus. C'est qu'il faut vraiment une discipline.
Ah, bien
investir, c'est de la discipline.
Mais pour le client?
Pour le client.
Oh, oh.
Il faut vraiment être très discipliné.
Mais oui, mais c'est-à-dire?
C'est-à-dire que quand les marchés vont contre vous, on ne panique pas, on a un plan, on s'en tient au plan.
Oh ben moi, j'ai envie de vous dire, moi, je vous fais confiance. Hein. Je veux même pas le savoir. Je veux même pas savoir que le marché va pas. Moi, je m'appelle bonjour Steve, ça va? Vous me dites oui, ça va.
Voilà.
À chaque fois.
Mais ça, c'est le travail du conseiller, en fait, de s'assurer que le plan est toujours maintenu.
J'ai une série de mon époque qui disait, j'aime bien quand un plan se passe comme prévu.
Exactement.
Donc, cela, pour vous, c'est aussi...
On est un petit peu l'agence touriste de la finance.
Parfait, Steve. Est-ce qu'on a fini pour
Alors oui, on a fini pour l'émission. Je voudrais juste faire une petite dédicace.
Ah.
Voilà, je vais en profiter pour faire une dédicace à mes filles, à Marine et Julia, qui nous écoutent régulièrement.
Ah, super, c'est bien.
Voilà, les filles. Donc, chose promise, chose due. Je vous dédicace cette émission.
Elles sont un peu dans l'univers financier comme vous, elles ont choisi d'autres voies pour dire ah non.
Ah non, elles ont choisi d'autres voies.
D'accord. Vous les avez conseillées ou pas?
Pas encore, mais j'y travaille.
Merci beaucoup Steve, on se retrouve la semaine prochaine pour le quatrième numéro de Les Chroniques Financières sur CFM Rhodes. Vous avez une idée ou carrément le plan, le programme de la prochaine émission?
La prochaine émission, on va rentrer dans le vif du sujet et voir comment on construit un portefeuille.
Ah! Concrètement.
Concrètement.
Rendez-vous la semaine prochaine. Merci Steve.
Merci David.